Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi.
Tu m'as demandé de me lever ce matin pour remplacer Christophe et tu me demandes de feindre l'excitation.
Les grandes gueules du sport.
C'est ça. Il faut que. Donc, en fait, je simule. Donc, c'est parti, nous simulons. Allez,
voilà.
Je suis excité. Vite, que ça démarre.
Jean-Christophe Drouet.
10h08, de retour dans les grandes gueules du sport. Votre rendez-vous déjà très chaud. Le samedi, le dimanche de 9h à midi, vous le savez, avec Pascal Duprat, vous l'avez entendu, qui remplace comme ça, au pied levé, Christophe Cessieux, malade ce matin. Marion Bartoli, Sarah Pitkowski, Fred Weiss, nous allons de nouveau simuler dans cette émission jusqu'à midi. Donc restez bien avec nous. Dans quelques instants, on va parler de Victor Wembanyama. Est-ce que le phénomène français est déjà de la trempe de nos plus grands champions actuels? Ce sera un 2 contre 2, 10h30, J-5 avant le grand début du tournoi des 6 nations 2025. Le 15 de France est-il le grand favori? On se posera la question. Et puis 11h, l'Olympique de Marseille qui retrouve les terrains ce soir à Nice, une semaine après avoir allumé une nouvelle fois le feu sur l'arbitrage. L'OM peut-il le payer cher? Vous n'êtes pas d'accord, mais GG, on en parle et on ouvre le débat à partir de 11h. Deux actualités fortes à suivre ce matin. Tout d'abord, la finale de l'Open d'Australie entre Sinner et Zverev. Bah, on va confirmer ça avec Eric Salio. Comment ça se passe?
Il va te l'infirmer, Eric. Tu vas voir.
Ah, ça s'émule pas en tout cas. Ah, oui. Ça frappe fort. 3-2 pour Yannick Sinner qui a eu tout à l'heure deux occasions pour breaker Zverev. Mais Zverev a tout de suite verrouillé avec des gros services et des bons coups droits. Mais oui, c'est pas. Oui, je vois ce que veut dire ça. Mais c'est du bon tennis quand même.
Mais moi je trouve ça très excitant. Hein. Oui. Je disais ça du second degré. Moi je regarde et je trouve ça. Je trouve ça très bien.
Ah, il n'est pas habitué au second degré de Sarah Pitkowski. On ne va pas relancer le débat.
On peut nous relancer le débat s'il faut.
On
peut mettre une pièce si vous voulez.
Allez, tranquillement, écoutez ça en podcast. C'était remarquable. Et puis, autre point chaud, c'est à Kixbull. On va retrouver notre envoyé spécial, Léna Marjac. Salut Léna.
Salut JC, salut à tous.
Pour un grand moment ce matin, la première manche dans quelques minutes du slalom.
Oui, à 10h15, effectivement, dans quelques minutes, vont s'élancer l'ensemble des skieurs présents ici à Kitzbühel. On aura 7 Français au départ, d'abord avec le dossard 4, Clément Noël, vainqueur justement ici, c'était en 2019, sur cette piste à Kitzbühel. Avec le dossard 10, on aura ensuite Steven Amier, qui lui cherche encore sa première victoire. La famille est là, tout le monde vient chaque week-end pour voir Steven Amier, tout le monde veut voir ce premier podium, alors on espère que ce sera aujourd'hui. Derrière, on aura Paco Rassa, Victor Mufajandé, Antoine Azolin, Hugo Desgrippes et un petit nouveau qui va découvrir la Coupe du Monde aujourd'hui, c'est Baptiste Sambuis. Et JC, je peux te dire que les conditions ont bien changé par rapport aux deux derniers jours. On avait grand soleil jusqu'alors et aujourd'hui c'est pluie et le brouillard est pas loin non plus, donc ce sera un petit peu différent les conditions pour le slalom. Donc départ dans 4 minutes maintenant pour ce 8e slalom de la saison ici à Kitzbühel.
Et on sera là évidemment pour suivre cette première manche. Allez, notre prochain débat, on va débuter avec cette citation de Victor Hugo qui a dit un jour: le prodige et le monstre ont les mêmes racines.
RMC, le bras de fer GG.
Sommes-nous seuls dans l'univers?
Victor Wembanyama.
L'homme a toujours observé les étoiles dans l'espoir de découvrir des preuves de l'existence d'autres formes de vie.
Normalement, rien qui s'en rapproche, mais ouais, des passions normales et des relations humaines normales, ouais.
Des milliers de témoignages sur des cas d'observation d'OVNI.
C'est incroyable, il était grand, c'était un moment de joie. Je l'ai checké, j'ai parlé avec lui.
Dont certains restent à ce jour inexpliqués.
Vraiment, c'est le joueur que je déteste en principe.
Devant les grands champions, il va s'aplater comme une crêpe.
Mais le secret a été levé depuis peu.
C'est brique après brique qu'on construit...
Nous sommes aujourd'hui en mesure de vous dévoiler toute la vérité sur les ovnis observés dans le ciel.
Téléphone maison.
S'il continue comme ça, le ciel est sa seule limite.
Voilà, c'est fini. Le show Wemby a pris fin hier soir après le deuxième match NBA disputé en France. Une lourde défaite pour les Spurs face aux Pacers, mais l'essentiel était ailleurs. Victor Wembanyama a pris date avec les Français. Le début peut-être d'une grande histoire d'amour. Pour cela, il faudra revenir en France, ça c'est sûr, mais aussi gagner des titres et marcher sur l'Amérique. Notre débat, Victor Wembanyama est-il déjà dans la caste des plus grands champions français actuels? Les Mbappé, Riner, Dupont et autres marchands. Dans le coin gauche, la team, mais évidemment que oui, représentée par Fred Weiss et Marion Bartoli. Dans le coin droit, la team, non. Sarah Pitkowski, Pascal Duprat, on vous a posé cette question sur le compte X des grandes gueules du sport. C'est extrêmement serré, mais il y a un petit avantage. Au camp du non, à 55%, oui, à 45%, c'est dire si Fred Weiss est encore plus furax maintenant. Mais avant de débattre, on va retrouver notre spécialiste basket, Arnaud Valadon. Salut Arnaud.
Bonjour JC, bonjour les GG.
Alors tu as bonjour. Pu mesurer toute la semaine la cote d'amour du phénomène français.
Une cote d'amour qui monte en flèche. Wembanyama a rempli deux fois les 16 000 places de Bercy, des billets vendus en 24 heures. Maxime juge que Wemby est de plus en plus populaire.
Si le basket continue à se démocratiser, beaucoup plus, c'est sûr qu'il sera aussi aimé. Et d'ailleurs, on a vu avec les JO cette année à Paris, il commence déjà à être dans le cœur de beaucoup de Français.
Même l'intéressé a ressenti de l'amour cette semaine. Wembanyama est touché quand il repense aux émotions.
Ça n'a pas pris, franchement, au milieu d'une saison, ça va permettre de continuer à carburer pour le reste. Je sais que c'est une aventure avec le public français, c'est une aventure de dizaines d'années. Je pense que marcher dans la rue, au Chénet, ça se fait, mais à Paris, un peu moins.
Est-il aussi populaire que Mbappé ou Marchand? Lucas et Hugo, venus de Pau, sont d'accord.
Avec les JO qu'il a fait et tout, oui, clairement, on peut le mettre dans le même standing.
La différence que Mbappé est champion du monde et Marchand, il est multi-médaillé d'or aux Jeux Olympiques. Donc Wembanyama, il va falloir qu'il gagne des titres aussi.
Teddy Riner est un grand fan de NBA, tout comme Esteban Ocon. Ils sont conquis par Wemby.
Oh, c'est un tueur à gage.
Ouais, c'est un tueur.
Invité par la NBA, le judoka, quintuple champion olympique et le pilote de Formule 1 estime que pour marquer l'histoire, il faudra gagner.
Pour rentrer aujourd'hui dans le panthéon du sport, que ce soit la NBA ou bien dans le sport d'une manière générale, il faut aller chercher des titres. Il faut qu'il ait l'équipe pour gagner.
Bien sûr, c'est un sport d'équipe.
Si les Spurs ne sont pas encore en position de gagner un titre, Wembanyama sera lui convoqué pour le match des étoiles, le All-Star Game jeudi prochain, un événement prévu dans un mois. Tony Parker avait dû lui attendre sa 5e saison dans la Ligue.
Merci beaucoup Arnaud pour ce reportage auprès de Victor Wembanyama et des grands champions français qui ont pu donner leur avis. Alors notre bras de fer, est-ce qu'il est déjà dans la caste des plus grands champions français actuels? Je le disais, c'est très serré sur le compte X des grandes gueules du sport. Mais vous êtes derrière le camp du oui, Fred Weiss, Marion Bartoli. Fred, je sais que tu es très remonté ce matin.
Alors j'ai même pas compris cette question. C'est la caste de qui? La caste de qui? C'est-à-dire que Mbappé, oui, c'est un sportif fantastique qui joue à un sport ultra populaire dans le monde, qui est pratiqué dans le monde entier. Et effectivement, on peut comparer avec Victor Wembanyama. Ensuite, Marchand, on peut à peu près comparer avec Wembanyama parce que l'aura n'est pas le même. Mais Teddy Riner et Dupont, sauf le respect que je leur porte et l'amour que je leur porte en tant que Français, c'est qui? C'est qui au niveau mondial? Au niveau mondial, c'est qui? Tu te balades dans la rue, tu vas à New York avec Teddy Riner.
Ah oui, ou sans
avec,
problème, ouais.
Alors,
honnêtement, tu parles de New York.
Alors,
ouais,
tu vas à New York, tu vas dans la plupart des pays du monde, tu te balades avec ces deux, Teddy Riner et Antoine Dupont. Est-ce que tu penses qu'ils vont voir Wembanyama ou ils vont voir les deux, Fred, que j'ai cités là?
Il faut
un moment arrêter de regarder le prisme du sport par les yeux des Français. On est des franchouillards, mais le sport est mondial. Le sport est mondial. Ce mec-là a réussi à faire de la ligue la plus intéressante du monde. Il a réussi à les faire venir deux fois en France. Mais c'est rien de... Mais non, c'est vous qui êtes subjectif. Parce que vous regardez par votre prisme de Français.
Et effectivement,
comme des Français, je suis d'accord avec vous qu'il n'a pas cette aura en France parce que le basket n'est pas aussi populaire que dans le monde entier. Mais les sports que je viens de citer, le rugby, le judo, tu sais que c'est le troisième art martial du monde.
Mais je te parle rugby, en France, moi.
Mais oui, mais en même à un moment, pour reconnaître la valeur et la caste d'un personnage dans le sport, il ne faut pas le comparer qu'en France, il faut le comparer avec le monde. Dans le monde, Victor Wembanyama est un monstre incroyable. Il a été le 9e joueur le plus voté pour le All-Star Game dans la ligue la plus importante du monde. C'est un joueur incroyable, qui a des performances.
Autre question.
Antoine Dupont, juste pour revenir à lui, quand est-ce qu'il a gagné son premier titre? Parce que titre de champion de France, franchement, pour moi, ça ne vaut rien. Champion d'Europe, en Afrique du Sud?
Donc,
à partir à un moment, il faut se rendre compte de la réalité. Victor Wembanyama est vice-champion olympique à 21 ans sur sa première compétition internationale. C'est tout.
Ok, voilà. C'est tout. Alors, ils veulent réagir, là. Et après, Marion, évidemment, tu vas venir au soutien de Marion. Vas-y, Sarah.
Alors, moi, je vais apposer aux arguments de Fred la règle des 3 P. T'as populaire, palmarès, égale panthéon du sport. Aujourd'hui,
Panthéon du sport mondial ou français?
Mais on parle du sport, peu importe.
Ah mais non, ça n'a rien à voir, parce que les gens que tu cites, c'est des gens qui sont panthéon du sport français.
Mais tu peux pas enlever le palmarès. Aujourd'hui, je suis d'accord avec toi, Wembanyama, il est de la caste des plus grands sportifs populaires en France et en dehors.
Et dans le monde entier.
Et au même titre que des Mbappé, que des Antoine Dupont dans leur spectre de
non,
leur sport.
Pas, mais le Antoine rugby, Dupont, je
oui, mais le rugby, c'est pas un sport mondial.
Et donc, tu peux pas comparer, en fait. À un moment, tu peux pas comparer.
Je parle du sport français, les copains.
Il faut bien mettre, il faut bien mettre.
En perspective.
Donc, populaire palmarès égale panthéon du sport. Aujourd'hui, pardon, il lui manque le palmarès.
C'est quoi le palmarès d'Antoine Dupont?
Il est champion de France. Non, mais il
est champion olympique.
Non, il est champion olympique en rugby à 7, c'est même pas en rugby à 15. On est pas dans ce sport. C'est quoi, quand même? Jouer au basket à 3.
France, mais non. Il est champion de France 2022, il est MVP
champion
2023,
France,
il est vice-champion olympique. Pardon,
c'est champion olympique à 7. Tu peux pas cet argument, je le réfute aussi.
Non, champion olympique pour Wembanyama, je parle pas Antoine Dupont. Mais tu peux pas le comparer avec la razzia de Léon Marchand. Tu peux pas le comparer avec Mbappé qui est champion du monde, vice-champion du monde.
Toi,
et Rinner qui est 3 fois champion olympique.
Dans un sport que personne ne pratique.
Et 10 fois champion du monde. Donc il n'a pas pour l'instant, il lui manque une case, pour moi, c'est le palmarès pour rentrer dans le panthéon du sport français, tout simplement.
Ok, voilà, vous avez pu vous exprimer tous les deux, maintenant on va écouter Marion Bartoli, viens au secours de Fred, même s'il n'a pas forcément besoin, parce qu'il est costaud.
Non mais j'ai bien entendu, je suis d'accord en partie avec les deux, bon, je suis bien sûr plus d'accord avec Fred, parce que c'est aussi mon argumentaire, c'est qu'effectivement, aujourd'hui le basket est un sport nettement plus pratiqué dans le monde entier que les deux sports, même si j'adore ces deux immenses champions que sont Antoine Dupont et Teddy Riner, mais force est quand même de constater qu'il y a une popularité mondiale et que pour moi, dans le jugement d'un sportif français, on est quand même aussi obligé de prendre la popularité mondiale. Quand aujourd'hui, un immense magazine américain que vous connaissez tous, qui s'appelle Sport Illustrated, met Oui, Victor, parmi les 50 figures, je parle même pas sportif, figures les plus influentes du sport dans sa globalité et que c'est le seul français représenté. Pour moi, bien évidemment, que c'est une ligne qui est importante dans sa construction du champion qu'il va devenir et qu'il est déjà. Après que le palmarès en fasse partie, là, je vous rejoins totalement, mais effectivement, il n'a que 21 ans. Laissez-lui aussi le temps de construire son palmarès.
Une aujourd'hui, compétition internationale, bien. Une médaille olympique, hein. Enfin, je trouve que c'est
exactement.
Pas trop mal,
mais on sait aussi que dans son sport, il va chercher les titres NBA, il va chercher le MVP de la NBA. Bon, le titre NBA, on va quand même se dire qu'il va pas le gagner avec les Spurs. Donc, à un moment donné, il va aussi falloir qu'il soit transféré dans un club qui lui permette aussi d'aller chercher ce genre de titre.
Je suis pas d'accord avec toi. Je pense qu'il gagnera avec les Spurs, mais pas tout de suite.
Pas avec l'équipe qu'il a actuellement. Après, dans le fait qu'il soit rentré dans le cœur des Français, on l'a entendu dans le reportage, la jeune génération s'identifie énormément à lui. Il y a une influence énorme du nombre d'inscriptions sur les enfants dans le basket dû à Victor et aussi une augmentation significative quand même du nombre d'abonnements aux chaînes qui retransmettent la NBA avec des gens qui se lèvent malgré le décalage horaire pour regarder les matchs. On l'a vu là sur les deux matchs en France, c'était plein à craquer. On sait très bien que c'est en immense partie grâce à Victor. Et toutes les actions qui sont les plus vues sur les réseaux sociaux que la NBA diffuse, on est quand même à 1,5 milliard de vues pour les actions de Victor Wembanyama aujourd'hui.
Juste, je vais rebondir sur ça. Bien sûr, 33 millions de vues juste sur quand il joue au Parc des Princes. Hein. 33 millions de vues.
Combien de personnes se lèvent la nuit pour regarder en France
Il y a une augmentation qui est énorme. Il y a une augmentation
tous les jours.
C'est à la marge quand même. Marion, je te redonne la main. Pascal Duprat, vas-y.
Non, mais en fait, on en avait déjà parlé. On avait fait un sujet il y a quelques semaines de cela. Et j'avais dit, en fait, il faut juste de la patience. Parce qu'il est certain que tout le monde pressent, et tout le monde anticipe, et tout le monde sait qu'il va être au panthéon du sport français et mondial. Mais malgré tout, c'est là où je rejoins Sarah, par rapport aux sportifs que tu énonçais, eh bien, le palmarès fait défaut. Tout simplement.
Donc,
je vous ai laissé parler.
Oui,
donc, laissez-moi juste m'exprimer.
Oui,
c'est un phénomène sociétal. Je suis d'accord avec toi. Mondial, peut-être. Beaucoup aux États-Unis, ça me paraît normal. Ils jouent aux States. OK? Donc, c'est un phénomène générationnel. En France, je te le concède. Pour autant, aujourd'hui, il n'est pas au panthéon du sport français parce que, au contraire des garçons que l'on cite, il n'est ni champion olympique, ni champion du monde, ni souvent les deux à la fois concernant chacun. Eh bien, c'est ce que je suis en train de dire, tout simplement. Donc, ne soyez pas trop hâtifs. Attendez, laissez-le. Vous lui voulez du bien? Laissez-le faire. Il va ça va venir tout seul.
J'y sais, j'adore Pascal, mais la question c'était de savoir s'il était dans cette caste. Il n'est pas dans cette caste, il est dans une caste bien supérieure, parce qu'encore une fois, son exposition
médiatique, c'est peut-être. Mais il est dans cette caste. Tu manques d'objectivité.
Une compétition internationale, il est vice-champion
olympique. Mais de quoi tu me parles? Tu me parles des Jeux Olympiques, et puis alors?
Dis-moi,
aux Jeux Olympiques, il a fini second. Marchand, il en a gagné combien de médailles?
Encore une fois, il n'est pas. Juste explique-moi, Pascal.
Mais on va te dire, déjà, je pense qu'ils ont été très clairs au niveau du palmarès, même si évidemment ils sont plus âgés que lui au niveau du palmarès, ils ont un meilleur palmarès. Nous, notre question, c'est pas de savoir si Wembanyama va être extrêmement fort. Il l'est déjà. C'est pas de savoir s'il est connu. Il l'est déjà. Notre débat, c'est de savoir si aujourd'hui.
On est dans la même caste aujourd'hui.
À l'instant T, si on s'arrête maintenant, est-ce qu'il est dans la caste de nos plus grands champions français? Est-ce qu'on le compare à Mbappé, à Dupont, à Marchand? C'est ça la question. C'est pas de savoir s'il est connu à New York.
J'ai utilisé la règle des 3P de Sarah. Popularité. Ce mec a réussi à faire que à la NBA fasse deux matchs à Paris juste sur son nom, juste sur ses qualités, juste sur lui. Clair. La NBA, mais c'est la meilleure ligue du monde.
Mais parce qu'il joue dans un sport. Il joue dans un sport qui est organisé de manière ultra professionnelle avec une force de frappe qui est la NBA. Évidemment, si tu le compares au judo, évidemment, judo sur le plan mondial.
Mais c'est présenté, hein.
Mais bien sûr, le palmarès de Teddy Riner, il sera toujours bien au-dessus.
Alors, il sera toujours au-dessus,
parce qu'il
évidemment.
Pratique pas un sport
mais
qui
tu
est
sais
ultra
que moi, je joue aux échecs boxe et je suis le meilleur dans ça. Mais bon, en fait, à un moment, il faut comparer ce qui est comparable.
Il joue,
450 millions de pratiquants de basket dans le monde. 450 millions.
Mais tu peux pas faire abstraction d'un palmarès. On devient pas champion de la popularité.
Il faut relativiser. Il faut aussi relativiser le palmarès. Le palmarès, c'est quand même plus simple quand on est handballeur, quand on est rugbyman, quand on est judoka.
Donc tu nous demandes d'être subjectif. Donc là, tu.
Mais non, c'est toi qui es subjectif.
Mais non, tu
dis les palmarès, c'est palmarès.
Mais
les palmarès,
tu vas pas.
Ça dépend
qu'est-ce qu'on compare. Ce qui est comparable. Tu veux nous emmener sur la subjectivité. Moi, je te parlais juste de popularité, c'est-à-dire maillot vendu, audience, c'est mesurable, et un palmarès, c'est mesurable.
Mais c'est aujourd'hui, en parlant de maillot, c'est palmarès son maillot le plus vendu en Europe.
Ne peut pas être comptabilisé de la même manière que les autres Français qu'on vient de donner.
Okay. Voilà. Vous auriez dû me prévenir, j'aurais pris des pop-corns moi ce matin, parce que vraiment, je suis au spectacle. Hein. Pascal, tu voulais ajouter
Il y a un
qui nous magnifique. Appelle.
Juste un tout petit mot, tu parles du sport intime qu'est le rugby, Fred. Ça te regarde, ce que tu dis. Mais écoute bien, si jamais tu organises un match du championnat du top 14 à Paris, qui concerne le Stade Toulousain au Stade de France, contre n'importe quelle équipe, c'est plein.
C'est
plein parce qu'il y a Dupont. Tout simplement. Je suis désolé, c'est un sport intime pour toi.
Oui, c'est un sport intime.
Pas pour beaucoup de Français.
C'est pas encore une fois. C'est par
Riner,
le prisme du
Riner,
rugby de
c'est quantité négligeable.
Pas pour le sport qui est universel.
Que le rugby fonctionne partout, c'est faux. C'est complètement faux, Pascal. Oui, en France, ça fonctionne. Et on est content que ça fonctionne, le rugby en France. Mais c'est faux.
On parle bien de France.
On parle de France. On parle dans le cœur des Français. À un moment donné.
Tu as posé la question de savoir si c'était la même caste. La caste
des champions français.
De champions. Ben oui. Donc, il est au niveau d'un
plus. Et plus au niveau d'un Mbappé. Tu refais les questions.
Mais non, c'est ça la question.
Non, tu refais les questions.
En gros, t'as envie de savoir si aujourd'hui, nos mamans connaissent plus Victor Wembanyama ou Antoine Dupont qu'Ilan Mbappé. C'est aussi sur la popularité. C'est du palmarès, c'est de la popularité. C'est dans le foyer des Français.
Donc, on fait du franc joueur à 200%. Ok, il n'y a pas de problème.
Attends,
mais dans
ton
figure, je vous donne raison. Mais
si
sinon...
tu veux faire les GG en Lituanie, tu fais comme tu veux. Mais nous, on parle de.
Mais les GG en Lituanie, je te assure que le basket serait largement au-dessus.
Oui, ça, c'est par exemple.
Choisi le mauvais sport.
En tout cas, ce que j'adore avec vous, on l'a vu sur le débat tennis, c'est fou comme quand c'est votre sport, vous perdez toute lucidité.
Non, c'est exactement toute notion d'objectivité.
J'attends Pascal sur l'OM à partir de 11h.
Non, c'est Marion sur l'OM. C'est pas Pascal.
Oui, il y a Marion aussi. Il y a Adrien qui nous appelle au 32-16. Salut Adrien.
Bonsoir tout le monde. Bonjour tout le monde.
Bonsoir. Même si vous c'est pour ça qu'il est en décalage, Adrien.
Bon, je crois qu'Adrien, il a beaucoup de choses à dire à Fred, là.
Ah, tout à fait. Tout d'abord, moi, je suis toulousain, donc remercie Monseigneur Pascal Dutra.
Merci. Voilà. Merci.
Et me dire à moi que Antoine Dupont, pourtant j'ai fait 8 ans de basket, j'adore le basket. Et me dire à moi qu'Antoine Dupont est moins populaire. Victor Wembanyama
au niveau mondial, mais je te l'assume.
Le jour où l'NBA me sortira une nouvelle règle juste par rapport à un joueur, tu m'appelles Fred comme tu veux, je te laisse mon numéro, tu m'appelleras.
C'est déjà arrivé plein de fois. Abdul-Jabbar, qui contrait tellement qu'ils ont été obligés de changer la règle, je peux t'en citer 5 ans.
Ils l'ont pas fait pour Wembanyama.
Ben non, parce que nous, on a su évoluer plus vite, peut-être. On est plus ancien comme sport.
Pourtant, il y a une règle qui a été sortie l'an dernier ou cette année sur le rugby international pour contrer les numéros 9 à cause d'Antoine Dupont. Donc, il est plus populaire dans son milieu que Wembanyama.
Oui, dans son milieu, je suis d'accord avec toi.
Oui, mais au cœur des Français aussi. Moi, ma mère, tu vas la voir demain, tu lui dis, tu préfères qui entre Wembanyama, Mbappé ou Dupont? Elle va te dire, Wembanyama, je connais pas, Mbappé, ça.
Elle habite où ta maman, juste pour savoir, parce que moi, maman habite en Lorraine et elle préfère Wembanyama.
Oui, mais c'est parce que tu es conditionné, ta maman. Tu lui mets des coups de pression, c'est normal.
Tu fais du basket à haut niveau, parce que tu as fait du basket et que tu parles souvent de basket.
Et tu sais quoi, Adrien?
Ma mère, elle parle rallye. Ma mère, elle parle rallye. Et si tu veux, elle va te parler, ouais, de Carlos Sainz Senior, des trucs comme ça, de Alatia. Mais elle n'est pas censée connaître ni le foot, ni le basket, ni le rugby.
Attention, on parle des remplaçants maintenant. Bon, en tout cas, Adrien, sache que on est quasiment tous d'accord avec toi sur l'image d'Antoine Dupont. Hein, y a pas de souci. Hein,
mais ah oui, moi j'adore juste... Antoine Dupont.
On a... Oui, mais... ça s'est vu.
Non, c'est non, pas vrai. Je vais faire ma excuse. J'ai pas dit simplement qu'au niveau mondial, il est pas reconnu. C'est tout.
Ça suffit, Fred.
Juste comme ça, je donne le palmarès d'Antoine Dupont pour l'instant. 4 fois champion de France, 2 fois champion d'Europe, vainqueur du tournoi Destination en 2022 avec un grand chelem et médaillé d'or aux Jeux Olympiques.
En rugby à 7.
Le ballon est toujours le même.
Non, c'est pour être sûr.
Je sais, tu peux nous donner le résultat parce que là, c'est ça.
Du sondage. Dans quelques instants, sachez que si, Fred et Marion se sont bien battus, mais c'est désormais 56-44.
Yes.
Donc voilà, victoire de Sarah Pitkowski et de Pascal Duprat sur ce débat qu'on aime tant dans les GG. Évidemment, on n'a pas la réponse absolue, mais d'écouter Fred énervé dès le matin, c'était plutôt pas mal. On embrasse aussi Christophe Sessieux. Vous le savez, il n'est pas là avec nous ce matin, et pour lui, les 3 P, c'est pizza, penne et panettone. Hein. C'est pas du tout le palmarès, le Panthéon, tout ça, tout ça. Merci Adrien d'avoir composé le 32-16. Justement, Adrien, reste avec nous. On parle du tournoi Destination dans quelques instants. Léna Marjac, un petit point avec nos Français parce que Steven Lamier vient d'arriver et Clément Noël, c'était il y a quelques instants à Kitzbühel.
Oui, et très bonne première manche de nos deux Français puisque Steven Lamier accuse seulement 7 centièmes de retard derrière Timon Hogan, le Norvégien, qui est pour l'instant le leader de cette première manche. Donc Steven Lamier deuxième et on retrouve à la troisième place avec 3 dixièmes de retard Clément Noël. Vraiment, tous les deux ont été très très bons dans des conditions qui sont un petit peu difficiles parce que il pleut et donc la piste est bien moins bonne que en tout cas les derniers jours. Donc c'est de bonne augure pour la seconde manche qui aura lieu tout à l'heure à partir de 13h30 et donc il y a encore 5 Français au départ. On va suivre ça avec intérêt.
Là, tout à l'heure, Léna Marjac, Eric Salut, on l'oublie pas, l'Open d'Australie, la finale, Sinner Zverev, un premier tournant peut-être.
Ouais, la digue a rompu, c'est break pour Yannick Sinner, 5 jeux à 3. Il a concrétisé à sa 7e balle de break, mais là, il a clairement pris l'ascendant dans cette première manche. 5-3 Sinner qui sert pour le 7.
Allez, les 10h30, on se retrouve dans quelques instants. Le 15 de France est-il favori de ce tournoi Destination? A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h33, toujours avec Pascal Duprat, Marion Bartoli, Sarah Pitkowski, Fred Weiss et avec Eric Salut en direct de l'Open d'Australie et Sinner qui vient de remporter la première manche, Eric.
Très très grand set, hein. Très grand set de Yannick Sinner qui a vraiment dominé de la tête et des épaules Alexander Zverev, 6 jeux à 3 en 46 minutes. Il va falloir que l'Allemand trouve des solutions tactiques, mais pour l'instant, si Sinner ne baisse pas de régime, ça peut aller très vite cette affaire.
On retrouvera Eric pour le deuxième set, évidemment. Et puis, sachez que dans 10 minutes, on va vous parler de sport féminin. C'est la grande semaine du sport féminin. Toujours une invitée avec nous, c'est Laetitia Guapo, championne de basket, notamment de basket 3-3. Elle sera notre invitée. Elle qui est ambassadrice.
On lui posera la question sur Wemby ou pas?
Oui, on va lui. Bah, c'est sûr. Faut qu'elle se prépare. Hein. J'espère qu'elle nous écoute, Laetitia. Alors, J-5 avant le début du tournoi des Destinations 2025. Ce sera vendredi soir au Stade de France face au Pays de Galles. Les Bleus n'ont plus remporté le tournoi depuis 3 ans sous l'ère Galtier. Ils ont même collectionné la place d'honneur, 4 fois 2e en 5 ans. Antoine Dupont l'a dit hein, cette semaine. Je sais pas, tu vois qui c'est Antoine Dupont
Non, à côté de Wembanyama, c'est.
En tout cas, il l'a dit. Maintenant, il faut gagner des titres, un peu comme Victor d'ailleurs. Mais c'est une année impaire. Donc le 15 de France va devoir vaincre loin de ses terres, et notamment en Angleterre et en Irlande. La dernière victoire en année impaire des Bleus remonte à 2007. On va retrouver notre journaliste sport de la cellule rugby, Pierre Thévenet. Salut Pierre.
Salut JC, salut les grandes gueules.
Alors avec ce tournoi en année impaire, les Bleus, est-ce qu'ils se considèrent, pardonne-moi, comme favoris?
Ils ont du mal à le dire, vous imaginez bien, vous connaissez la prudence des sportifs de haut niveau. Le sélectionneur Fabien Galthié, avec ses mots éclairs, il n'y a pas de favoris.
Là, à l'instant, il y a 6 équipes ex aequo à 0 points. Tout le monde est à égalité. Il n'y a aucune équipe qui est meilleure. On commence tous au même niveau.
Il n'empêche qu'il y a des arguments en faveur du 15 de France. Seule nation du Nord invaincue sur la tournée de novembre et portée par les performances énormes des clubs français en Champions Cup. Si on rajoute à ça le retour d'Antoine Dupont, absent l'an dernier, on a quand même un sacré cocktail de réussite. L'entraîneur des avants, Laurent Sempéré, lui, veut surtout voir son équipe progresser.
On a une obsession de progression, donc oui, on veut être une meilleure équipe à la fin du tournoi que ce qu'on a fini la tournée de novembre. Et on fait tout ça pour gagner, comme on l'a fait en novembre et comme on le fait à chaque compétition.
Mais il y a un élément contraire au bleu, tu le disais JC, ils ne peuvent pas le maîtriser, c'est le calendrier en année impaire comme 2025. Ils vont se déplacer trois fois en Angleterre, puis en Italie, puis en Irlande, avec seulement deux réceptions du Pays de Galles et de l'Écosse. Et ça, Fabien Galthié l'assure, ça a son importance.
Depuis que le tournoi est devenu un tournoi à six nations, la France l'a gagné une fois sur les années impaires, je crois que c'est 2007, et c'est tout. Et c'était une victoire et pas un grand chelem. Donc, il semble plus complexe de performer les années impaires. Ça n'enlève pas la beauté du challenge et la volonté que l'on a de faire quelque chose de grand.
Le challenge sera important, en effet, d'autant que les concurrents des Bleus vont les attendre de pied ferme, à l'image du sélectionneur gallois Warren Gatland, premier adversaire vendredi prochain.
Parfois, les Français ont du mal à démarrer. Ils mettent du temps à se lancer dans le tournoi. Il va y avoir des attentes énormes autour d'eux, surtout au vu des performances de leur club. Vont-ils jouer devant leur public en s'attendant à nous battre confortablement ? À nous de voir comment nous mettre sur leur voie et de les déranger un petit peu pour les déboussoler.
Ah, le ton est donné par les Gallois. Pour espérer une victoire finale, il faudra en tout cas faire le plein de points et de confiance face à l'équipe annoncée comme la plus faible vendredi prochain.
Merci beaucoup Pierre Thévenet. Ben voilà, toutes les équipes ne partent pas à zéro point avant ce France-Pays de Galles quand même. Fabien Galthié en conférence de presse. C'est pas possible. Le 15 de France est-il favori du tournoi destination ? Oui ou non les GG Fred Weiss ?
Oui.
Sarah Pitkowski ?
Je suis plutôt sur le oui.
Marion Bartoli ?
Plutôt non, mais ils peuvent le gagner.
Pascal Duprat ?
Non.
Non, bah Pascal, tu commences. Pourquoi non ?
Tout simplement parce que le double tenant du titre, l'Irlande, recevra la France. Mais également, si on regarde le calendrier d'Irlande, l'Irlande reçoit l'Angleterre. Alors certes, ils vont se dépasser trois fois chez les trois autres nations, mais qui sont, quoi qu'on en dise, les nations les plus faibles. Donc double tenant du titre et recevoir les Français et les Anglais, ça te confère un avantage, quoi qu'on en dise. Et c'est pour cette raison que même si la France est capable de battre toutes les équipes, j'en conviens, au départ, sur le papier, la France n'est pas favorite.
Hier, on a fait un débat sur le 15 de France, parce qu'on sait que les Bleus ont envie d'avoir des titres. Je rappelle, hein, c'est deuxième place en tournoi destination. Une seule victoire sous l'ère Galthié. Et Thomas Ramos le disait hier, il faut gagner avant le Mondial. Donc, j'imagine que là, ce tournoi destination est extrêmement important, Fred.
Oui, il est extrêmement important, mais moi, je suis pas tout à fait d'accord, parce que l'Irlande, c'est quand même moins étincelant que ce qu'on a pu voir sur les années qui ont précédé. On les voit un peu moins bien, il n'y a pas beaucoup de sang frais. Sexton a été remplacé par Crawley, mais c'est à peu près tout ce qui s'est passé. C'est une équipe qui est vieillissante, qui justement n'arrivera pas jusqu'à 2027, donc il va y avoir des ajustements, ça va travailler. Alors oui, on se déplace chez les deux, donc forcément c'est compliqué. On se déplace aussi en Angleterre, mais on leur a mis 50 en 2023, donc j'espère qu'on va recommencer la même chose. Et je me dis qu'on a enfin cette charnière Dupont et Tamac dont on a rêvé depuis des années, qu'on voyait champion du monde en 2023. Donc je me dis que toutes les circonstances sont faites pour que ça se passe bien. Et surtout, moi, quand j'entends Galthié dire il n'y a pas de favori, bah forcément je sais que c'est la langue de bois, donc je pense que lui-même pense que c'est des favoris.
Ok Marion, pourquoi non ?
Alors effectivement, il y a le retour de Romain Ntamack, mais il revient de rupture des ligaments croisés. On va dire qu'il est sur le retour, il n'a pas encore atteint sa pleine forme. Et puis moi, il y a quand même deux postes qui me font faire du souci, c'est le poste de pilier, surtout le poste de numéro 5. Et on sait très bien que les très grandes victoires de Fabien Galthié, il les a construites avec un paquet d'avant à 6 remplaçants et une seconde ligne complète. Et là, je me dis quand même que sur des postes aussi importants d'avoir des manquements, ça me fait dire qu'effectivement, ils peuvent le remporter. C'est pour ça que j'ai dit non, pas favori, mais ils peuvent le gagner. Mais de pouvoir le remporter à être favori, je trouve que le pas est un peu trop large pour que je puisse l'effectuer. En revanche, qu'ils aient la capacité à aller le faire, j'en suis convaincue. Ils ont quand même gagné ce tournoi qu'une fois sur les 10 dernières années, c'était en 2022. L'Irlande l'a gagné quand même 5 fois sur les 10 dernières années. Donc,
vieillissante l'Irlande, vieillissante un petit peu l'Irlande.
Et comme toute série.
D'accord, mais quand même. Mais quand même, comme toute série, elle doit être.
Plus elle est longue.
Autant de fois. Oui. Quand tu l'as gagné autant de fois, ça te passe quand même un tout petit peu plus en avant. Et puis, il y a surtout le calendrier avec effectivement ces matchs à l'extérieur qu'il va falloir quand même aller gagner, qui sont jamais, jamais faciles à aller chercher.
Sarah.
Moi, je vais sur les mêmes arguments, forcément, que Fred. Et je vais ajouter le fait que cette charnière Dupont-Ntamack, c'est la charnière toulousaine et que Toulouse a quand même bien mis une bonne leçon au Leinster. Leinster qui est représenté comme une franchise et qui a 80-85% l'équipe d'Irlande. Donc je pense qu'on sait comment battre les Irlandais. Certes, certes, on est en année impair et effectivement ces trois déplacements me font dire que finalement la France n'est pas la seule favorite et quoi qu'il arrive, même si on était en année pair, la France est favorite autant que l'Irlande aujourd'hui et on ne peut pas... Compte tenu de la qualité de ce 15 de France, compte tenu du réservoir que le 15 de France a de cette génération, ne pas mettre la France favorite, c'est une erreur de jugement. Qu'elle ne soit pas la seule, c'est une chose.
Ils ont échoué.
Oui, mais on ne peut pas ne pas les mettre. On peut pas les mettre à outsider. Ça tient pas la route. On va dire, mais à outsider, on a les meilleurs joueurs du monde là, à certains postes.
Mais encore, terminer deuxième, c'est un problème ou pas?
Bah, terminer deuxième. Quand t'es en finale de quelque chose, t'as été forcément favori. Tu fais partie des derniers.
Oui, mais est-ce que on va encore leur rabâcher pendant un an s'ils ne gagnent pas là qu'il faut des titres avant la Coupe du Monde?
Ah, mais ça, c'est sûr. Mais ça, ça n'a pas rapport avec ta question.
C'est surtout à Galtier qu'on va le rabâcher, je pense.
Mais on leur rabâchera tant qu'ils gagneront pas un autre grand chelem avant cette Coupe du Monde.
Il faut juste rappeler que l'Irlande, sur la tournée d'automne, c'est pas foufou contre l'Australie, contre l'Argentine.
Ils sont aussi foirés que nous en Coupe du Monde.
Voilà, c'est ça. Donc, franchement, au final,
voilà la sagesse de Pascal. On en reparlera le match venu et le moment venu.
Oui, mais la question, c'est maintenant, Pascal.
C'est quoi, c'est lui maintenant?
Non, c'est pas maintenant, parce que le match à Dublin, il est pas maintenant, Fred.
Mais
ce matin, tu dérailles. Non, mais c'est pas maintenant.
Alors, Fred,
reviens à la raison, s'il te plaît.
Tu reviendras, Pascal.
Reviens vite à la raison.
Mais là,
je
trouve que tu dérailles particulièrement sur le tennis, surtout.
Non. Et un peu sur le basket aujourd'hui.
Qu'est-ce qu'on s'ennuie sur le tennis, là, aujourd'hui?
Bah, justement, on va prendre des nouvelles avec Eric Salio. Sachez juste que c'est évidemment l'événement de la semaine, le 15 de France qui défie le Pays de Galles vendredi soir au Stade de France. Vous allez suivre tout ça sur RMC, sur rmcsport.fr. Eric Salio, on en est où dans le deuxième set entre Sinner et Zverev?
1-0 pour Sacha Zverev, donc qui aura peut-être la chance de faire la course en tête dans cette deuxième manche. Je rappelle qu'il a perdu le premier 6-3 et plutôt nettement puisqu'il a sauvé quand même 6 balles de break avant de craquer. Sinner est au service et ça fait 45.
L'OM peut-il le payer cher? Ce sera notre débat à partir de 11h et dans quelques instants nous allons vous parler de cette semaine du sport féminin, l'opération sport féminin. Toujours, j'ai quelques chiffres à vous donner. D'ailleurs, c'est très intéressant et notre invitée Laetitia Guapo, basketteuse professionnelle. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h45, de retour dans les grandes gueules du sport. Votre émission le samedi, le dimanche de 9h à midi. Si vous avez raté le début, hein, c'est de toute beauté. Hein. Précipitez-vous cet après-midi en podcast. Vous allez vous régaler. À partir de 11h, on ouvre le débat Olympique de Marseille et l'arbitrage avec Roberto De Zerbi qui a remis une pièce dans la machine en conférence de presse vendredi. L'OM peut-il le payer cher, notamment ce soir sur la pelouse de Nice? On se posera la question et vous n'êtes pas d'accord. Les GG, ce sera à partir de 11h. Alors hier a débuté la semaine du sport féminin. Chaque année désormais depuis 11 ans, l'opération sport féminin toujours vise à promouvoir la visibilité du sport féminin. Cette initiative invite les médias notamment à valoriser les performances des sportives et à aborder les enjeux spécifiques liés à la pratique. Notre invitée Laetitia Guapo, basketteuse professionnelle, membre de l'équipe de France de 3-3, est avec nous aujourd'hui. Bonjour Laetitia.
Bonjour tout le monde.
Bonjour.
Merci d'être avec les GG du sport. Je ne sais pas si tu nous as écoutés à 10h ou pas du tout.
Non, je ne vous ai pas écouté malheureusement, désolé.
C'était un débat très chaud sur Victor Wembanyama, de savoir s'il était dans la caste déjà des plus grands champions français. Et Fred Weiss, que tu connais forcément, s'est énervé contre nous parce que pour lui, oui, c'est un phénomène. Oui, il n'y a pas de doute. Pour toi aussi?
Alors je suis plutôt d'accord, ouais. Je pense que le débat n'est même pas entamé parce que c'est vrai qu'on doit être fier d'avoir une star comme ça, je pense, qui est française. Et voilà, je suis trop contente en tout cas de pouvoir le regarder derrière ma télé. J'ai pas pu aller au match NBA, mais ça a dû être incroyable.
Oui, c'était incroyable. Et Fred a pu y aller, lui, hein, Vénard. Oui, petit Vénard.
C'était très bien, d'ailleurs.
Mais on t'offrira des places pour aller voir Antoine Dupont.
Bref. J'adorerais.
Laetitia, on ne t'a pas fait venir pour ça. Tu es l'une des ambassadrices de cette semaine du sport féminin. Pourquoi c'était si important, là, pour toi, de jouer ce rôle aussi?
Mais je pense qu'on se doit, en tant que sportive féminine, d'être un petit peu des modèles pour les futures petites pépites qui pourront faire du sport à haut niveau aussi, ou alors même tout simplement pour impulser un petit peu cette notion de sport. En parallèle de ça, je suis aussi professeure d'EPS, alors je suis en dispo le temps de finir ma carrière, mais c'est vrai que pendant toutes mes études, et on peut le voir, je pense, via de nombreuses études, il y a de moins en moins de filles qui font du sport, et notamment à partir de l'adolescence. Donc voilà, si on peut être un petit peu ce petit modèle pour les jeunes filles, pour qu'elles continuent à faire du sport, à se dépenser, à trouver une raison de faire du sport pour se sentir bien dans sa tête et dans sa peau, ben j'en suis encore plus ravie.
Oui, j'ai envie de dire, il y a un double combat à mener. Déjà sur le plan professionnel, il y a évidemment une plus grande visibilité, les retransmissions, là c'est aux médias de faire le job aussi et de retransmettre de plus en plus d'événements féminins, mais également aussi sur le plan amateur et scolaire, c'est de donner envie aux jeunes filles de pratiquer du sport et de continuer le sport et de ne pas s'arrêter, malheureusement c'est trop le cas, à l'adolescence. Sur le côté professionnel, est-ce que tu as la sensation que depuis quelques années, les choses ont quand même bien évolué, Laetitia Guapo?
Oui, carrément, je le vois pour moi au basket. En tout cas, c'est vrai que ça commence à se développer de plus en plus. On est sur YouTube. Après, on essaie d'être en clair aussi. Hier encore, on était sur Sport en France. Mais voilà, c'est vrai que c'est encore pas suffisant. Des fois, l'Euroleague, je vois mon chéri a voulu me regarder en Euroleague mercredi. Il a un petit peu galéré à nous trouver et tout. Donc, c'est vrai que alors qu'il est dans le monde du basket, donc je me dis ouais, c'est vrai que c'est pas si facile que ça. Donc, il y a encore du chemin à faire, mais ça commence à être mieux en tout cas par rapport à il y a 10 ans quand j'ai commencé le basket professionnel, quoi.
J'ai des chiffres à vous donner, les GG, mais déjà une première observation, je m'adresse aussi à vous forcément, Sarah Pitkowski, Marion Bartoli, est-ce que vous avez la sensation que les choses sont vraiment en train de bouger concernant la retransmission du sport féminin, Sarah?
Bon, c'est pas juste une sensation, hein, les chiffres vont avec. La semaine du sport féminin, elle a plusieurs vocations, pas uniquement la médiatisation, c'est le développement de la pratique. Et effectivement, quand on a des championnes, ça devient inspirant et ça donne envie à des petites filles de pratiquer un sport. La présence des femmes dans les instances, ça c'est un petit peu plus discutable. L'économie du sport, je pense que dans certains sports, effectivement, il y a une économie autour du sport féminin et notamment le running. Et la médiatisation, et là depuis 2014, depuis le temps où cette semaine du sport féminin a été mise en place, oui, c'est passé de, je crois, de 6% de médiatisation du sport féminin. On n'est pas loin des 20%, hein, je crois, aujourd'hui.
En tout cas, je vais te donner d'autres chiffres. Oui. C'est un bon révélateur. Durant les Jeux Olympiques de Paris 2024. Donc là, je vous parle des retransmissions du sport féminin à la télé.
Là, tu parles que des Jeux Olympiques.
Non, mais là, je parle que des Jeux Olympiques. Tu as bien raison. Mais c'est quand même, ça montre une progression, même si on pourrait évidemment toujours faire plus.
On peut toujours faire plus.
Les médias. Mais c'est une étude menée par l'ARCOM. L'ARCOM, je vous le précise, hein, c'est l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Et voici ces chiffres. Durant les JO 2024, 37% des retransmissions ont concerné les épreuves féminines. Alors, c'est moins que les hommes, 56% consacrés aux hommes et 7%, les 7% oui, restants, sont consacrés au sport mixte.
Oui, mais donc, on ne peut pas oublier les 7%. On n'est pas très loin. Moi, je vais te remettre le chiffre. Depuis 2019, la couverture médiatique des sports féminins est passée de 5 à 16%. Et aujourd'hui, en 2025, on tant à penser qu'on va arriver aux 20%. Mais le constat, c'est qu'on y arrive. Pourquoi? Parce qu'on met de la contrainte. C'est pas un choix délibéré. C'est parce qu'on est sous contrainte et qu'on oblige et qu'on force la médiatisation du sport féminin. Si c'était un choix, je pense qu'on serait pas encore à ces chiffres-là.
Alors, j'ai vu dans... Parce que tout de même, moi, quand on parle de médiatisation du sport féminin, je me réfère souvent, quand on parle de sport professionnel, aux performances, parce que je trouve que c'est ça qui doit primer. C'est pas de savoir
absolument
si c'est masculin,
oui, non,
et féminin,
d'accord,
c'est de savoir,
oui,
s'il y a quelque chose à raconter. Et l'ARCOM a quand même émis quelques alertes, et là je vais aller voir Laetitia et Marion sur ce sujet. Ils se sont aperçus, l'ARCOM, que les chaînes étaient moins favorables à retransmettre du sport féminin dès qu'il n'y a pas de médaille en jeu. Mais ça, on peut le comprendre, non, Laetitia?
Ou non. On peut le comprendre, mais je pense que les gens ont besoin un peu de comprendre aussi comment ça se passe avant. Donc, c'est vrai que je suis... Pourquoi dans le sport masculin, ça serait pas pareil, du coup? Genre, c'est vrai que tous les matchs, voilà, il y a beaucoup de matchs de championnat ou alors tous les matchs d'Euroleague, phase de poule, etc. sont retransmis. C'est vrai que, enfin, je sais pas. Moi, j'avoue que les gens ont besoin de comprendre et je trouve ça cool qu'ils
voient un petit peu l'évolution dès le début, ouais.
avant d'arriver jusqu'à une finale, justement.
Marion Bartoli.
Alors, si je peux me permettre, effectivement, je pense que le plus gros problème qu'on a actuellement, encore malheureusement dans le sport féminin, c'est qu'il y a des écarts qui sont énormes entre certains sports pour la représentation, pour effectivement, malheureusement, le volume financier généré par certains sports féminins par rapport à d'autres. Et que du coup, ces écarts-là mettent en valeur aussi le problème que parfois, certains sports sont trop jugés. Comme ça a été dit, bah, effectivement, s'il n'y a pas une médaille en jeu, finalement, ça ne nous intéresse pas trop. Oui, mais alors le basket féminin, oui, mais alors c'est pas au même niveau que le basket masculin, donc ça nous intéresse pas. Et je pense que cette manière,
t'as vraiment cette sensation.
Ah oui, vraiment. Parce qu'en tennis, Coco Gauff, par exemple, a été une des sportives les mieux payées l'année dernière. Elle a touché quasiment 30 millions de dollars entre ses contrats et son prize money acquis sur le terrain. Simone Biles, aujourd'hui en gymnastique, est une star absolument mondiale. Donc, on arrive sur certains sports féminins à effectivement être quasiment l'alter ego de gros sports masculins. En revanche, sur d'autres sports, je pense qu'on est bloqué sur des stéréotypes qui empêchent la diffusion de ces sports. Alors qu'au contraire, comme l'a dit très bien Laetitia, et là, je la rejoins totalement, la manière dont les jeunes vont pouvoir pratiquer ce sport, c'est parce qu'ils vont le voir, parce qu'ils vont s'identifier à certaines personnes et qu'ils vont se dire, ben moi j'ai envie d'être la future joueuse de basket ou la future joueuse de football, etc., etc. Et je pense que cette manière de pouvoir s'identifier à des championnes qui les inspirent est une partie essentielle dans le développement de l'appréciation du sport chez l'enfant et en particulier chez les jeunes adolescentes qui ont des problèmes d'image qui sont importants, surtout aujourd'hui dû aux réseaux sociaux et la manière dont elles sont bombardées à longue journée d'images sur Instagram ou sur TikTok avec une certaine plastique à avoir ou une certaine identité à avoir. Je pense que c'est essentiel de pouvoir justement les mettre en valeur via le sport à partir d'un sport scolaire pour éventuellement ensuite s'orienter sur un sport professionnel.
Dernier chiffre à vous donner, édifiant, aux heures de forte audience, 85% des compétitions retransmises à la télé sont masculines.
Ouais,
bien sûr. Oui. Alors, je suis plutôt pas trop mal placé pour parler de ça parce que je suis commentateur de basket féminin et je suis un grand passionné de basket féminin. Il se trouve que malheureusement, on est en train de faire preuve d'hypocrisie un petit peu. On tape sur les médias, sauf que quand on passe du basket féminin, par exemple, bah, personne ne regarde. Je me souviens quand j'étais ici à RMC, on avait les droits du basket et on nous disait passer du basket féminin. Et moi, je poussais à fond parce qu'encore une fois, c'est quelque chose qui me passionne. Et personne ne regardait. Donc à un moment, malheureusement, il y a cette réalité économique qu'ont les médias aussi. Il faut cette contrainte. Je pense que la contrainte, parce que la contrainte permettra que tout le monde l'accepte, que tout le monde le comprenne, que tout le monde le regarde,
et puis,
et que ça devienne une habitude, et à force de cette habitude, on s'y intéressera. Je pense que c'est un chemin de longue haleine encore, mais il faut se rappeler que le basket féminin est un sport magnifique. J'adore ce sport, qui est beaucoup plus technique, qui est beaucoup plus réfléchi que le basket
féminin.
Oui, mais encore une fois, je préfère parler de ce que je connais. C'est un sport qui, en comparaison avec le basket masculin, c'est beaucoup moins athlétique, oui, même s'il y a maintenant de plus en plus de dunks, mais n'arrêtons l'hypocrisie de dire c'est facile de poser du basket féminin parce que malheureusement il faut aussi une réalité économique à ceux qui le diffusent.
Laetitia Guapo, quel message tu as envie de faire passer aujourd'hui sur RMC à l'occasion justement de cette opération sport féminin toujours?
C'est vrai que je me suis alliée avec MGEN pour faire un petit peu de, on va dire, c'est pas de la propagande, mais c'est vrai que si on peut continuer d'amener toutes ces jeunes filles à faire du sport, de pousser tout le monde à faire du sport, parce que je pense que c'est un message éducatif qu'on apprend à l'école ou auprès de ses parents ou auprès justement de ses modèles en s'identifiant un petit peu lors de sa construction identitaire. D'essayer de se dépasser, de repousser un petit peu ses limites, de vouloir sentir bien dans sa peau et dans sa tête. Donc pour ça, il faut faire du sport. Donc voilà, si je peux un petit peu aider à passer ce message-là, je suis ravie. Et puis voilà, j'ai tellement de passion pour le sport en général, pas que forcément pour le basket. Je me sens tellement bien quand je fais du sport que j'espère que tout le monde se sent aussi bien dans sa vie. Donc voilà, faisons du sport pour se sentir bien et n'arrêtons pas ça.
L'opération sport féminin toujours qui a débuté hier et qui va se poursuivre tout au long de la semaine. Merci beaucoup Laetitia Guapo d'avoir été avec nous dans les grandes gueules du sport ce matin. C'était important d'en parler. Un point sur nos directs en cours. Tout d'abord l'Open d'Australie, la finale entre Sinner et Zverev. Comment ça va pour l'Allemand, pour Sacha Zverev, Eric Salio?
Il s'accroche. 1h11 de jeu, il est malmené. 6-3 Sinner.
deux partout dans le deuxième set, mais l'Allemand se sentir bien puisqu'il a sauvé des balles de break il y a quelques minutes. C'est impressionnant. La cadence que produit Sinner, personne n'arrive à suivre depuis de longs mois sur dur et là pour l'instant il est au-dessus. 6-3.
6-3 et de partout, c'est ça que tu voulais nous dire,
Eric? De partout.
Ok,
oui.
Il a voulu s'arrêter. Voilà. Et voilà, il donnait le score à moitié. Jean-Michel à moitié, Eric Salio.
Qu'est-ce que j'ai dit?
Non, t'as dit 6-3 et puis tu t'es arrêté. Je me suis dit que t'allais annoncer le 2.
En fait, 6-3-2-2.
Non, mais ça a coupé. Voilà. Réseau, ça vient de loin. Ça vient
La liaison est très bonne.
Rapidement, un petit point avec Kitzbühel, la première manche de ce slalom. Où en sont nos Français, Léna?
Eh bien, on a un Brésilien qui s'est intercalé entre nos deux Français, entre Steven Amier qui lui est toujours deuxième avec 7 centièmes de retard sur le Norvégien Timon Hogan. Et donc Clément Noël a reculé d'une petite place, il est quatrième avec 3 dixièmes de retard. Et à l'instant, le troisième Français vient de s'élancer, c'est Paco Rassa. Il termine à une petite seconde de retard de la tête de cette première manche. Donc pour l'instant, nos trois premiers Français sont qualifiés pour la deuxième manche. Ils sont encore 4 à prendre le départ, donc on espère qu'on aura le plus possible tout à l'heure à 13h30 pour la seconde manche ici à Kitzbühel. Sous la pluie.
L'OM peut-il le payer cher? C'est notre débat dans quelques instants à propos de ces récentes polémiques autour de l'arbitrage. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.